le 1er février dernier, le commissaire enquêteur chargé du dossier Usine Appelée de Vian a rendu son verdict. Il est favorable à l'implantation de l'usine. Dans ce contexte, nous sommes allés faire le point avec des membres de l'association Non à la Montagne Pelée. Pour se remettre un peu dans le bain, ils nous font un rapide retour sur les raisons d'être de leur association.
Je fais partie de l'association Non à la Montagne Pelée. C'est une association qui a été créée à la fin de l'année dernière pour lutter contre le projet d'implantation d'une usine de pelée torréfiée sur la gare industrielle qui se trouve sur la commune de Vian et de Bugeat. C'était un site industriel en friche et il y a le projet d'installer cette usine-là et d'utiliser la gare bois qui avait été créée après la tempête de 99.
Simplement pour préciser que cette histoire de pelée torréfiée, ça peut sembler obscur. Il faut simplement comprendre qu'il s'agit de fabriquer du charbon ou un équivalent du charbon à partir du bois vert et que ce bois vert, c'est en particulier les souches qu'on dessoucherait, qu'il est proposé de dessoucher en tout cas, des branchages et des cimes qui restent après les coupes rases. Et c'est aussi le principal élément qui, moi, me semble absurde dans ce projet-là, c'est qu'on commence à prélever des choses qui, pour l'instant, n'étaient pas utilisées fort heureusement parce qu'elles permettaient au sol de se renouveler et qui, aujourd'hui, vont être exploitées comme si c'était une ressource négligée, alors que ce n'est pas une ressource, c'est une ressource pour le sol, il faut la laisser sur place.
Tout d'abord, c'est la première réaction, ça a été autour de ce site industriel en préparation, les nuisances inévitables que ce site industriel produira, qui sont de trois ordres autour de cette gare bois, le bruit, les odeurs, les fumées et accessoirement sur tout le plateau, la circulation des camions. Donc les nuisances industrielles de ce type d'usine sont très connues, elles sont établies, elles ne sont pas d'ailleurs contestées par l'industriel, qui dit simplement, lui, qu'il va mettre des systèmes en œuvre pour les limiter. Nous sommes sûrs et nous savons que ces systèmes de protection ne suffiront pas à respecter la législation environnementale, qui est assez stricte d'ailleurs, hein, notamment en matière de bruit, en matière d'émissions de fumée, en matière d'odeur, et pas en matière de circulation de camions. Ensuite, nous avons progressivement analyser que la matière première, comme le disait Pascal, la matière première de cette usine, ce sont les nutriments de la forêt, c'est ce qui permet à la forêt de se renouveler, aux terres de se stabiliser. Et là, il y a un grand danger pour la forêt limousine.
Moi, je voudrais ajouter que le plan d'approvisionnement en souche de l'industriel, il n'est pas finalisé. Et que donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement sur quel périmètre il va s'approvisionner. Il dit 80 km, mais nous, on pense qu'il va aller beaucoup plus loin. Et que donc, ça va impacter aussi bien l'Auvergne que d'autres régions.
Ensuite, l'utilisation de la biomasse pour essayer d'enrayer le changement climatique, c'est quelque chose qui est déjà contesté, fortement contesté par les associations de défense de l'environnement qui s'occupent de ça. Ensuite, un projet comme ça qui est présenté pour développer un pays soi-disant qui se meurt, c'est vraiment de la poudre aux yeux. On sait que c'est simplement un industriel qui va venir, qui est déjà PDG d'une quinzaine d'entreprises et qui va venir pour s'emparer d'une ressource naturelle qui va pouvoir exploiter à bon marché et se faire de l'argent. Donc c'est absolument pas pour les intérêts des habitants.
On parlait de l'opposition, Pierre-Henri Gaudriot, président de 15 sociétés, condamné déjà pour recel de favoritisme, prise illégale d'intérêt. C'est à cette personne-là qu'on veut faire confiance. Ça pose quand même franchement question, il faut le savoir, ce qu'il a comme casserole et qu'est-ce qu'il vise à faire, essentiellement du profit.
Aussi, au-delà du projet d'usine porté par Pierre-Henri Gaudriot et sa société CIBV, c'est tout un modèle de gestion des forêts qui est remis en cause.
Ce projet s'appuie sur une gestion de la forêt qui est de plus en plus contestée. C'est le modèle de futaie régulière monospécifique suivie par une coupe rase, modèle de foresterie industrielle qui fait déjà beaucoup de mal au sol et ça se sait. Sur le plateau ensuite, qui est le premier visé évidemment par l'installation de cette usine, qui sera en plein cœur du parc naturel de Mille Vaches. Sur le plateau, toutes les parcelles forestières à peu près sont en pente, ce qui fait que après coupe rase, la moitié du sol qui se retrouve dans le ruisseau. Et déjà, ça c'est un problème. Ensuite, si on enlève les souches, c'est l'intégralité du sol qui va se retrouver dans le ruisseau. Si on enlève les souches et les rémanents, on sait que dans un pays comme ça, déjà n'importe où ailleurs, ça pose de gros problèmes pour la fertilité du sol. Ici, c'est évident que ça ne va pas tenir deux fois. Et le système de gestion de la forêt est déjà extrêmement problématique. Il sous-entend une grosse utilisation d'antiparasitaires et d'engrais, puisque quand on fait des cultures monospécifiques, on a beaucoup plus de chances d'avoir des parasites, on a beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes. Quand on coupe les douglas à 40 ans au lieu de les laisser 120 ans, on fait beaucoup de mal au sol, puisque dans les premières années, ils acidifient beaucoup plus le sol et ils pompent beaucoup plus de nutriments. Donc ça, c'est déjà une gestion de la forêt qui n'est absolument pas normale. Ce n'est pas ce qu'on apprend dans les écoles de foresterie. Et ce n'est pas ce qui se fait... En Suisse, par exemple, c'est interdit. C'est interdit, ce mode de culture. C'est interdit de récolter les arbres sous forme de coupe rase. Et dans d'autres départements en France, déjà, ça se... Dans le Jura.
Oui, dans le Jura, en France. On a rencontré, nous, des gens qui avaient repris un refuge, qui avait une dizaine d'hectares. Et dans leur contrat de vente, c'était spécifié qu'ils n'avaient pas droit aux coupes rases. Ils l'ont repris l'année dernière. Donc c'est tout récent.
Un autre élément aussi, parce qu'il faut quand même rendre, on va dire, au milieu forestier, le fait qu'il se soit posé des questions là-dessus. Et c'est quand même des controverses qui existent depuis plusieurs années dans la filière, on va dire la filière forestière. Et certains sont en train de bouger depuis quelques années parce qu'ils se rendent compte soit que ça stérilise les sols, mais aussi bien que finalement des sols pauvres, ça fait des arbres de mauvaise qualité, voire même ça fait moins de rendement économique, juste sur des trucs très très basiques. Et en tout cas, c'est en train de bouger progressivement, les grosses structures étant peut-être celles qui bougent le moins vite parce qu'elles ont plus d'inertie, mais ça bouge quand même. Et en fait, CIBV, en proposant de récolter des souches à besoin, que les coupes rases aient lieu, c'est-à-dire défend un modèle rétrograde que certains s'échinent à dépasser avec d'excellentes raisons qui sont celles qui ont été pointées à l'instant. Et un petit exemple là-dessus, c'est qu'il y a une grosse coopérative qui a cessé de dessoucher et que CIBV a démarché en leur disant « voilà, si on voudrait vous acheter des souches ». Ils ont dit « on a cessé, si vous voulez, on vous vend du bois rond ». Alors ça, c'est intéressant à relever aussi, c'est que du coup, ce ne serait pas du tout des rémanents, ce serait du bois rond qui passerait dans le broyeur. Mais si jamais, à un moment donné, ils sont en difficulté économique, ça se trouve, ils recommenceront à dessoucher, parce qu'il y aura un débouché. C'est-à-dire qu'on crée un débouché sur une ressource qui ne devrait pas exister parce qu'elle détruit l'environnement et les sols. Et du coup, on encourage un modèle qui est déjà rétrograde, obsolète. Ouais, et ça, c'est très important à relever aussi. Parce qu'on souhaite fort, et on est nombreux, je pense qu'il y a plein de gens, on a beaucoup discuté avec le milieu de forestier, moi en habitant sur le plateau depuis plusieurs années, à différentes occasions, notamment au moment de la fête de la montagne, on a eu des discussions très intéressantes, aussi avec des petits forestiers qui font du conseil sur des manières de diversifier une parcelle qui aurait été plantée en monoculture. Ça bouge, mais en fait, si on n'encourage que des gros qui en plus pratiquent la monoculture et qu'on les décourage de cesser la monoculture, ben en fait, on va juste flinguer toute possibilité d'amélioration des pratiques. Le modèle monoculture avec coupe rase et épuisement des sols, pour moi, ce n'est pas un modèle. C'est tirer une balle dans le pied et c'est se promettre le désert.
Au cours du mois d'enquête publique, ces positions défendues par les membres de l'association ont pu être entendues sous différentes formes par l'enquêteur public, écrite, orale ou via Internet. Résultat, 304 contributions ont été enregistrées au total, 124 pour le projet, 144 contre et 36 étant réservées. Le commissaire a pourtant donné son aval au projet, ce qui n'a pas étonné les anti-usines.
C'est pas une surprise parce que de toute façon l'enquêteur il est payé par l'industriel pour faire cette enquête publique, donc on mord pas la main de celui qui vous nourrit, donc c'était assez évident qu'il allait rendre un avis favorable. Par contre, ce qui est important, c'est que il a dû prendre en compte quand même toutes les remarques que les personnes avaient fait. Alors, c'est pas seulement des opposants qui appartiennent à l'association Non à la montagne pelée, c'est des gens qui avaient des critiques à faire ou des questions à poser. Et il a émis, comme l'ADEME, il a émis quand même trois recommandations. C'est pas un oui franc et massif.
Il a quand même mis des réserves qui sont formalisées sous la forme d'adverbes « cependant ». Donc ces trois « cependant » concernent le bruit, l'émergence du bruit et les nuisances industrielles autour de l'usine. Il dit, comme l'autorité environnementale, l'ADREAL, il dit que les engagements de l'industriel ne sont pas respectés avec les dispositifs qui sont présentés. Donc il reporte à après la mise en service le respect de ces réglementations, mais il affirme et il dit, que, comme l'ADREAL, qu'actuellement, dans le dispositif actuel, ça ne peut pas être respecté. Deuxième réserve importante, il dit que pour les fumées, notamment ce qu'on appelle les COV, les composés olfactifs volatiles, il dit que le dispositif de l'industriel ne permettra pas, en tout temps, à tout moment de l'année, de respecter les seuils admissibles. Et notamment, une des contributions intéressantes d'une personne avait annoncé qu'à cause des phénomènes d'inversion de température, très fréquents sur le plateau, le taux des COV serait bien au-dessus des valeurs calculées, puisque l'industriel ne parle que de valeurs calculées. Et alors, il y a une nuance, dans son avis positif, il y a une nuance assez importante. Il demande à l'industriel de vérifier que ces taux de fumée, donc de composants dangereux pour la santé, ces taux ne seront pas au-dessus d'une valeur réglementaire. Et l'industriel botte en touche, en fait. L'industriel renvoie à la préfecture une éventuelle demande d'arrêt à cause d'un dépassement des seuils. Il faut savoir que dans ce type d'installation industrielle, c'est à l'industriel de veiller à ce que il ne dépasse pas les seuils réglementaires. Et là, l'industriel botte en touche, il renvoie à la préfecture. Idem pour le bruit. L'industriel renvoie vers les constructeurs de broyeurs, notamment, fabricants d'aéro-réfrigérants, il renvoie à l'industriel la réglementation de ces émissions de nuisances, en fait. Et donc là, on voit vraiment une irresponsabilité de l'industriel qui dit, en fait, en gros, il dit déjà « c'est pas moi ». C'est pas moi, c'est la préfecture. C'est pas moi, c'est ceux qui fabriquent les équipements que j'achète. Et on voit déjà que l'industriel est déjà dans cette situation d'irresponsabilité.
On peut constater que ce soit dans l'avis de l'Adréal ou dans l'avis du commissaire enquêteur, on a une sorte de oui avec des réserves. Sauf que pour ce qui est des garanties d'avenir, qu'est-ce qu'il en est? Je veux dire, quand on voit qu'une installation ICPE comme celle de Piveteau-Farges à Aigleton, qui ne respecte absolument pas les normes, notamment en termes de nuisance, ça fait 2 ans que les habitants se battent pour que ces normes soient respectées, et ça n'avance pas, ou presque pas, parce que l'industriel finit par dire « Ah, mais de toute façon, on ne me fournit pas le matériel, ça n'existe pas sur le marché. » Mais attends, Coco, si ça n'existe pas, fallait pas la faire, ton usine. Et de fait, on remonte un peu. Du coup, une fois que le « oui » est parti, on va se retrouver, moi c'est ça que je trouve terrible, ils ont beau faire des « oui, mais », en fait, une fois que ce sera parti, ce sera trop tard. Il y a vraiment tout ce qui peut exister comme exemple nous montre qu'une fois que ce sera parti, ce sera trop tard. Ça, c'est un petit élément sur l'enquête publique. Un autre élément, c'est que le commissaire n'a cessé de répéter qu'il ne se fondait que sur le dossier d'enquête publique. Ce dossier est extrêmement lacunaire, ne prend pas en compte le fait que l'exploitation de la biomasse n'est pas une alternative pour le changement climatique, ne prend pas en compte le fait que l'exploitation des souches bousille les sols. C'est pas pris en compte, ça. L'étude d'impact, elle est limitée au site lui-même. Et, il ne prend pas en compte le fait que l'industriel parle de dépolluer alors qu'on n'a pas d'étude de pollution initiale. Il y a des choses qui sont hors champ. Et quand le commissaire se prononce sur ce qui est dans le dossier d'enquête, il oublie les 3/4 des éléments essentiels. Et en particulier cette question de dégradation de l'environnement global.
Alors, on a un troisième cependant du commissaire enquêteur qui concerne l'approvisionnement en eau potable, enfin en eau de fonctionnement de l'industriel. L'essentiel de l'eau de l'industriel pour son industrie, l'industrie requiert une grosse consommation d'eau. L'essentiel sera tiré de prélèvements dans la Vézère, qui avait été construit d'ailleurs au moment de la garbois et pour arroser les souches et les troncs, les grumes. Et donc, on a fait le calcul, nous, et on a mis en difficulté d'ailleurs l'industriel au moment de la réunion publique sur le débit d'eau nécessaire. L'industriel, en fait, visiblement, n'a pas de solution pérenne pour toute l'année. Et il y a un gros problème au moment des mois d'étiage de la Vézère, il y aura un gros problème. Dans les réponses que l'industriel devait apporter aux questions qui ont été posées, l'industriel dit qu'il utilisera les ressources en eau potable de Bujat. Il prélèvera, lorsque le débit de la Vézère sera insuffisant, il utilisera les ressources en eau potable. Or, cette eau potable, elle n'est tirée que de la Vézère. Donc là, il y a un vrai problème. Et le commissaire enquêteur et l'ADREAL, c'est-à-dire l'autorité environnementale, ont pointé cette insuffisance en eau. Et on dit et on écrit tous les deux que cet industriel ne pourra pas faire fonctionner pendant toute l'année de façon continue son industrie. Je pense que l'industriel, lui, s'assurera d'un fonctionnement continu, mais au détriment de l'eau potable des habitants de Bugeat et de Vian.
Moi, j'ai l'impression, en regardant le rapport, que le commissaire enquêteur n'a pas lu déjà in extenso le dossier, puisque dans son rapport, au début, on voit qu'il dit que les aménagements ne dépasseront pas de la plateforme actuelle. Dans l'étude d'impact du dossier, on nous dit clairement qu'il y aura un aménagement hors plateforme vers l'est. Donc, des petits détails comme ça qui font que quand on allait voir le commissaire enquêteur, qu'on lui demandait des précisions, il était incapable de nous répondre. Et ça se voit même dans son rapport. Je pense qu'il ne maîtrise pas très bien le dossier. Il est d'une extrême mauvaise foi quand il rapporte les arguments pour et les arguments contre.
Non, mais pour conclure, c'est simplement qu'on a contesté dès le départ sur le fond comme sur la forme cette enquête publique, du point de vue de la surface sur laquelle elle est réalisée, du point de vue de l'absence de débat contradictoire en amont. Du fait qu'on a forcé, on a dû forcer le commissaire enquêteur pour avoir cette réunion publique. Il ne l'aurait pas faite de lui-même. Il n'y aurait pas eu, ça se serait fait comme une lettre à la poste sans en parler aux habitants. Et à l'issue de ça, on a l'impression d'un processus qui avance coûte que coûte pour forcer les choses. Et depuis le début, on a dit que ça n'allait pas dans la forme, comme dans le fond, et comme on le disait tout à l'heure, parce que le dossier d'enquête n'inclut pas tout un tas de choses essentielles. Et donc du coup, on fera ce qu'il faut, je crois, pour que cette enquête publique, elle soit considérée à l'avenir comme étant, pour ce qu'elle est, elle est insuffisante, elle est nulle et non avenue. Voilà. Ensuite, sur la question, tu disais quelques mots sur la question des avis favorables et défavorables. Je pense que c'est important. Vas-y.
Oui. Quand on regarde le rapport, on a l'impression de quelque chose de très équilibré, qui a un peu plus d'avis défavorables, mais en fait, non, ça va. C'est plutôt équilibré entre les pour et les contre. Nous, quand on a lu le rapport, le dossier, les contributions électroniques à l'enquête publique, on s'est rendu compte que les avis favorables, en gros, c'était oui, je suis pour le développement de Bugeat, je suis pour l'emploi, je veux 20 emplois. Et c'était le principal argument pour, les arguments contre. On a vu des arguments d'experts très détaillés, d'experts forestiers très détaillés, des arguments sociaux, économiques, environnementaux. Contre l'usine, très, très détaillée et très riche. On n'a pas du tout l'impression que c'était au contraire équilibré. On a l'impression que les arguments pour étaient plus ou moins pauvres quand même et se résumaient à l'attrait des 20 emplois qui sont promis par l'industriel. Et sur ces 20 emplois, vu que c'est un projet comme ça, pilote, on ne sait même pas si... Si ça va être des emplois pérennes, on se doute d'ailleurs que vraisemblablement ça ne va pas être des emplois pérennes et pas des emplois de qualité, que ça va détruire des emplois existants.
Depuis le début qu'on a commencé à affirmer une opposition, tout le monde nous a plus ou moins rangé dans une case qui serait la case des écolos qui luttent et qui s'en foutent de ceux qui veulent créer de l'emploi. Alors on reviendra peut-être sur cette question tout à l'heure, mais en fait moi ça ne me va absolument pas que des gens fassent la partition et en plus la fassent à notre place en nous disant d'un côté il y aurait les écolos, de l'autre il y aurait un projet de développement économique. Ça, c'est des conneries. La question de l'écologie, elle n'est pas que sur la question des petits oiseaux et des petites fleurs, c'est une question aussi bien humaine. On est à l'époque d'un changement climatique planétaire dont les activités industrielles de l'homme sont responsables et c'est pas l'écologie d'un côté et le social de l'autre. Les deux vont ensemble, on n'a plus le choix aujourd'hui. Et donc nous présenter des projets financés ou encouragés par les fonds européens d'une manière ou d'une autre plus ou moins directe en disant que c'est ça la transition alors qu'il s'agit surtout de faire du profit, c'est se foutre de la gueule du monde. Il y a sans doute plein de choses à faire mais pas celle-là. Et moi, je refuse d'opposer écologie et social. Notre opposition, elle vient vraiment des deux à la fois, de prise en compte des deux facteurs à la fois.
Deux remarques aussi que nous faisons par rapport aux conclusions du commissaire enquêteur. Il ne reprend pas la contestation qu'on a faite de la qualité de l'inventaire de la faune et de la flore sur le site. Nous contestons que cet inventaire ait été fait correctement. Il est imparfait, incomplet. Et il a été bâclé. Donc, et surtout, les associations naturalistes qui combattent avec nous ce projet d'usine affirment qu'il ne peut pas être valable car il ne prend que la plateforme d'industriel, il ne prend pas les environs. Or, un inventaire de la faune et de la flore complète doit prendre les circulations, les flux, les échanges, etc. Deuxième chose, le commissaire enquêteur reprend à son compte ce vieil antagonisme entre les gens du pays. Il le dit dans ses conclusions, hein, il parle d'un côté les gens du pays, de l'autre côté, il parle d'une population nouvellement installée et souvent jeune. Et ça, c'est, je trouve que c'est dramatique.
On a avec nous dans l'opposition des paysans, des natifs du coin, depuis plusieurs générations, des gens effectivement qui sont arrivés plus récemment, mais il y a aussi des gens pour qui sont arrivés plus récemment. Enfin, c'est pas clivé comme il le dit et c'est pas clivé comme certains voudraient le faire croire.
Dans ce climat cordial, le vendredi 2 février, 4 des membres de l'association ont été convoqués à la gendarmerie de Bugeat afin de répondre à des questions sur des graffitis et un sabotage de machines.
4 membres ont été effectivement convoqués au commissariat de Bugeat pour être entendus sur des tags qui avaient été faits à sur la maison du plateau la maison du PNR à Millevaches, et puis sur des dégradations qui ont été faites sur un engin de travaux publics qui se trouvait sur le site de l'usine. L'association n'a absolument rien à déclarer là-dessus parce que il faut pas non plus imaginer que tous les opposants font partie de la montagne pelée, de l'association non à la montagne pelée. Il y a toutes sortes d'opposants qui sont dedans ou dehors, peu importe. Nous n'avons rien à voir avec cela, donc nous n'avons rien à déclarer sur ces agissements.
Oui, depuis le début, l'association a toujours fermement affirmé qu'elle se tiendrait à une position légaliste et qu'elle viserait une forme de lutte toujours dans la légalité. Donc, si la lutte déborde cette forme-là, en tout cas, l'association n'a pas à en répondre.
Des actions légales pour continuer à lutter contre le projet d'usine, l'association en a prévu quelques-unes dans les temps à venir.
Dans les manifestations à venir, on souhaite organiser des petites réunions publiques avec les gens intéressés, mais des petites réunions publiques locales. Et alors on envisage le 19 février à La Renouée, à côté de Gensiou, le 26 à Ned et sous réserve le 5 mars à Saint-Martin-le-Château. Mais on précisera les horaires et tout ce qu'il faut sur le site. Le 25 février, il y a un bistrot d'hiver à Saint-Hilaire-les-Courbes à propos justement de l'association Non à la montagne pelée.
On n'a pas la date en tête là, mais il y a un loto aussi qui est prévu.
Alors l'éco-loto, on va organiser un grand éco-loto, loto comme le jeu, éco comme écologique, avec des merveilleux prix à gagner, tous écologiques, labellisés écologiques. Et cette manifestation joyeuse et festive aura lieu le vendredi 23 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Faux-la-Montagne.
Peut-être de manière générale, sur une dynamique générale, je crois qu'on nous, on va pas s'arrêter au fait que l'enquêteur a dit oui. On a encore plein d'éléments à apporter et à discuter, que ce soit avec les habitants, que ce soit avec la préfecture, de manière à ce que ce projet, au moins, ne commence pas dès demain, mais soit ralenti, voire stoppé, le temps qu'il faudra pour qu'on ait une vraie conscience de ce qui est en train de se passer et de savoir si on veut, oui ou non, que ce qui pour nous est une aberration se réalise. On va pas lâcher là-dessus, on va pas faire non plus que des événements de rendez-vous et on va continuer à faire de l'information.
Pour en savoir plus sur l'association Non à la montagne pelée et ses dernières actualités, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.nonalamontagnepelée.fr tout en minuscules ou sur le Facebook Non à la montagne pelée.